Quelle joie d'être parmi vous, hein, encore une fois de plus. C'est un privilège que nous avons de pouvoir nous retrouver ensemble. Et j'aime soulever quand même ce mot privilège. Il y a tellement, tellement de chrétiens de par le monde qui sont obligés de se cacher. Ne serait-ce que pour lire la Bible, pour célébrer un culte. Hein, il y a des années en arrière, j'ai enseigné à Tizi Ouzou et à Béjaïa, en Algérie, hein, parmi les Kabyles, où il y a tout un mouvement de réveil. Et aujourd'hui, cette église, ils ont fermé des portes, ils ont battu les chrétiens, elle est pulvérisée et elle est fermée, alors que ça avait des centaines de personnes converties. Mais Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, et c'est comme la persécution de Jérusalem. Ils sont en train de témoigner partout. Mais à quel prix? Ils risquent d'être battus, ils risquent d'être emprisonnés. Hein, au niveau professionnel, c'est très compliqué. Tout ça parce qu'ils aiment Jésus comme nous. Et c'est important que nous puissions mesurer, nous, ce privilège que nous avons. Hein, vous n'avez pas de personnes qui surveillent autour de la maison. On est là, on est libre, on chante. Hein, on ouvre la Bible, on a même tous les écrans, et librement. Mesurons ce privilège, c'est énorme, mes bien-aimés. Croyez-moi, c'est énorme. Hein, quelle grâce que nous avons. Alors, ce matin, je ne sais pas si vous avez vu un peu le titre de mon message. Ce n'est pas un message forcément populaire que je vais vous donner, mais c'est un message qui me tracasse. C'est quelque chose qui est là dans mon cœur. Et je vais vous dire pourquoi, hein, que j'ai pris ce titre-là. Y a-t-il encore des disciples au sein de l'Église de Jésus-Christ? Alors, pardonnez-moi, j'ai embarqué tout de suite là, mais vous avez les salutations de mon épouse, du pasteur Jérémy, hein, de toute l'équipe, Mélina, Jean-Michel, enfin, tous ceux qui vous connaissent, et surtout, tu les salues bien. Merci Seigneur, je n'ai pas oublié. Merci Seigneur, je n'ai pas oublié. Je reviens à ce que je disais. Pourquoi un titre comme ça? Parce que ça peut déboussoler, ça peut bouleverser. Simplement, j'ai lu le témoignage d'un djihadiste, je pense dans la région, dans le pays d'Égypte. Un gars qui était capable de traverser les champs de mines, d'être partout à l'article de la mort pour Allah. Un gars qui était vraiment à fond un djihad. Et un jour, cet homme, il s'est converti à Jésus-Christ. Jésus est apparu à ce djihadiste. Et il a lâché l'islam. Et en lâchant l'islam, il a cherché des églises chrétiennes. Il a cherché des églises chrétiennes pour l'aider à progresser dans sa foi. Et cet homme, malheureusement, a dû faire tout un parcours de combattant pour trouver des chrétiens dignes de ce nom. Il a trouvé des croyants dans les églises chrétiennes, des croyants qui avaient une croyance chrétienne, mais qui avait une vie en décalage avec ce qu'il croyait. Et vous savez, quand on est djihadiste, moi j'en ai rencontré au Sénégal aussi, j'ai même dormi chez un ancien djihadiste. Vous savez, quand ils sortent d'un engagement islamique comme ça, pour eux, c'est obligé, quand ils pensent aux des chrétiens, quand ils ont la révélation de Jésus, c'est obligé que l'Église est une Église consacrée à Jésus. Ça ne peut pas être autrement pour eux. Ils s'attendent à trouver une église qui est vraiment consacrée à Christ. Ils s'attendent à des chrétiens qui sont conséquents entre ce qu'ils croient et ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Mais ça n'a pas été du tout le cas pour lui. Et avant de trouver une église où il a trouvé des vrais disciples de Jésus-Christ, il a fait tout un périple. Ça a été vraiment compliqué. Heureusement que sa conversion, elle était solide. Et autant je me suis réjoui de sa conversion que ça m'a fait pleurer de voir ça. Et c'est la question que je pose, qu'on va se poser ensemble, mais y a-t-il encore des disciples dans les églises de Jésus-Christ. Y a-t-il encore des églises dans l'église de Jésus-Christ? Des croyants, il y en a. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de croyants. Mais Jésus ne nous a pas dit, dans Matthieu 28, il ne nous a pas dit « Allez, faites de toutes les nations des croyants ». Parce que dans ce cas-là, Satan, c'est le plus grand des croyants. Satan est le plus grand des croyants. Il croit que Dieu est Dieu. Il croit que les anges sont avec Dieu. Il croit que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Même les démons, ils savent que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais ils tremblent. Vous voyez, si c'est ce genre de chrétien qu'on a dans les églises, ça pose un problème. Et croyez-moi, à l'époque où nous vivons, où nous voyons, c'est comme un entonnoir de plus en plus, où les choses sont en train de se resserrer pour le monde, mais aussi pour nous. On va tous à un quelque part qui s'appelle la fin, qui va être marquée par le retour de notre Seigneur. Moi, je ne voudrais surtout pas que je ne sois pas assis sur le trône de Christ, hein, comme il est mentionné dans Apocalypse 3, où il va asseoir son Église. Mais l'Église qui est assise sur le trône, c'est l'Église qui a tout surmonté. C'est pas l'Église de croyants. Ce sont des disciples. Ce sont les disciples qui ont appris à surmonter. Hein, quand on est un disciple, on ne contourne pas une montagne, on l'affronte. On ne contourne pas un problème, on l'affronte. Et on va voir ça un petit peu ensemble parce que c'est un sujet qui, pour moi, est absolument important. Parce que les temps sont courts et les choses, un jour, vont arriver en un instant. On n'aura pas le temps de dire « ouf ». On n'aura pas le temps de dire ouf. En un instant, après, ça sera trop tard. Alors, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons la responsabilité de tirer les sonnettes d'alarme. Nous avons la responsabilité de vous transmettre au mieux, hein, le plus proche possible de la pensée de Dieu des Écritures. Et ce que je vous dis ce matin, je me le dis aussi à moi. Personne n'est visé, on est tous dans la même barque. Ça, c'est important, mais il faut que l'Église de Jésus-Christ puisse se remettre en question, parce que nous avons, il ne faut pas oublier, par rapport aux apôtres, nous avons un héritage de 2000 ans de faux christianisme tordu, quoi. Et ce côté de christianisme tordu, malheureusement, tout n'a pas été réformé au XVIe siècle, au temps de la Réforme. Ça serait trop beau. Hein, il y a eu des souffles de Dieu, hein, petit à petit, depuis la Réforme, où Dieu a soulevé le voile à un endroit, à un autre endroit, à un autre endroit, pour que le jour où il va paraître, on puisse avoir tout l'ensemble de la révélation. Et ce matin, c'est important de savoir où nous en sommes. Parce que si nous ne sommes pas des disciples, comment nous faire des disciples? Nous ne pourrons jamais faire des disciples. On fera ce qu'on est. Si on n'est que des croyants, on fera des croyants. Si on est un adhérent, on fera des adhérents. Mais si on est un disciple, on fera des disciples. Père éternel, je veux te remettre ces instants particuliers. Tu es le seul qui est capable de toucher les cœurs. Sans toi, nous ne pouvons rien. Je te livre ces instants parce que c'est toi qui es le souverain. Seigneur, au-delà des mots que je peux dire ce matin, que tu puisses toucher les cœurs, les consciences, les âmes, afin qu'un peuple nombreux se lève ici dans cette région, pour que ton nom soit propagé, Seigneur, avec puissance, avec autorité, Seigneur, avec conviction. Seigneur, que nous puissions savoir qu'il y a un lieu où il y a la lumière qui luit au milieu des ténèbres. Seigneur, étends ta main, Seigneur, sur ce moment. Je me confie en toi, je m'appuie sur toi, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous savez tous comme moi que dans Matthieu 28, 19, le Seigneur nous a donné un ordre. Et vous savez, quand on donne un ordre au moment où on doit quitter les êtres chers, je pense qu'on va chercher l'ordre le plus important qui soit. Quand on sait, il sait qu'il allait quitter, qu'il allait monter au ciel, c'est le jour de l'ascension, hein, le Seigneur sait qu'il est là, il allait partir. Et il leur a donné ce mot d'ordre qui est le plus important, cette commission que Dieu vous a laissée, m'a laissée, nous a laissée. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et, il ne faut pas oublier la suite, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est là qu'il nous promet, par contre, qu'il sera avec nous tous les jours. Que tu sentes ou que tu ne sens pas, ça n'a rien à voir. Sa parole, elle est vivante en permanence et qui n'est pas forcément vivante au niveau de tes sens. Mais quand il dit qu'il est avec nous, il est avec nous. Point final. C'est à moi de le croire, c'est à moi de le recevoir. Alors, je vous ai parlé de cette histoire de ce djihadiste. Et Jésus, il nous prévient qu'il les a prévenus dans le passé. Vous savez, le Seigneur, il a contrôlé l'histoire du passé. Il a tout contrôlé, tout ce qui s'est passé dans le passé, pour pouvoir ajuster tout, pour que nous puissions comprendre les choses qu'on ne voit pas, les choses qui sont abstraites. Nous allons les comprendre à travers des choses qui ont été vécues, des choses de la terre qui ont été vécues, même s'il y a un rapport direct avec le spirituel. Mais il permet ça, il permet le passé et l'histoire du passé pour que nous puissions comprendre notre présent et notre futur. Vous êtes d'accord avec ça? Et à un moment donné, Jésus, dans Luc chapitre 17, verset 26, il dit « Ce qui arriva du temps de Noé ». Le temps de Noé, il y a eu un moment où il y a quelque chose qui est arrivé. « De même au jour du Fils de l'homme, arrivera de même au jour du Fils de l'homme, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. » Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva aussi du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même. Il en sera de même où le Fils de l'homme paraîtra. Le Seigneur, il prend deux épisodes de l'histoire du passé pour nous éveiller à ce qui va se passer dans les temps de plus en plus proches pour nous. Il parle du temps où Jésus paraîtra, où il va paraître. Et il prend deux épisodes qui sont terribles. L'épisode du déluge. Vous savez que au moment du déluge, Dieu a choisi Noé parce qu'il allait avoir l'audace d'être à part. Il est à part. À part, ça veut dire sanctifié. À part, c'est ça. Dieu va choisir des êtres qui vont se mettre à part de tout ce qui se fait dans la société pour un but, faire ce que Dieu leur demande. On imagine mal ce que ça a dû coûter à Noé. Il n'avait pas l'expérience de la construction de bateaux. Dieu va lui demander de construire une arche qui a duré au moins 80 ans. Au moins, entre 80 ans et 100 ans. C'est-à-dire que pendant 80 ans, 100 ans, il a été la risée de tout le monde, de toute la société. On s'est moqué de lui. Il avait beau prêcher la justice de Dieu, et les gens n'en avaient rien à faire. Et en fin de compte, ils se mariaient leurs enfants, étaient vaqués à leurs occupations. On peut dire, mais ces gens-là, ils font pas de mal. Où est le mal, là? Ils font pas de mal. Mariés, marier leurs enfants, bâtissaient, vendaient, tout ça. Où est le mal? Tout d'un coup, je sens très attentif, là. Le mal, c'est que Dieu n'est pas au centre. Tout simplement. voyez, souvent, les gens disent, oh, mais je ne fais pas de mal. Oui. Est-ce que tu fais le bien? Parce que le bien, c'est quoi? C'est faire ce que Dieu nous demande. Le vrai bien, c'est ce qui découle du Père de lumière. Et là, j'allais dire Josué, non, Noé, il était là au milieu de cette société qui l'a ridiculisé. Mais quand le temps fut venu, vous imaginez le nombre d'années où il a dû persévérer, il a accepté la moquerie, la risée de tous. Et quand Dieu a demandé à Noé de rentrer, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. Et si vous imaginez, quand la pluie est arrivée, les gens ont dû se regrouper autour de ce bateau construit en plein désert. Ils ont dû tambouriner le long du bateau pour que Noé l'ouvre. La Bible dit « tous ont péri pour des gens qui ne faisaient pas de mal ». Tous ont péri. Et c'est toute l'image du jugement. Vous savez, il y a quelques années en arrière, au Sénégal, vous avez dû savoir ça, il y a eu le naufrage du Diola, un ferry qui faisait Zingachor-Dakar, la navette de Zingachor-Dakar. C'est au début des années 2000, 2004, 2005, je ne me souviens plus exactement. Mais ça a été quelque chose, un drame terrible. Parce que le bateau s'était retourné complètement. Il y avait des gens qui étaient encastrés en dessous le bateau. Et il y a des gens qui étaient au-dessus du bateau. Et tous ceux qui ont été sauvés, qui étaient au-dessus du bateau, ont été choqués à vie. Parce que ceux qui étaient en dessous, ils tambourinaient. Et de plus en plus, il y avait de moins en moins de voix et tous sont morts. Et c'est ce que Noé a dû vivre. Les gens ont dû crier, ont dû hurler. Et petit à petit, il y avait de moins en moins de voix. Vous imaginez le drame? On a du mal à imaginer ça. Et pourtant, c'était le plan de Dieu. Quand Dieu dit « tous ont péri », tous ont péri. Il n'y a que simplement Noé qui était à part. Vous savez, si on veut vraiment suivre le Seigneur, il faut qu'on accepte d'être à part. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on ne veut pas être à part. Pourquoi? Parce que vous, comme moi, on veut faire que ce qu'on veut. Je me trompe? On n'aime pas être contrarié. Aujourd'hui même, on a laissé de côté l'obéissance des enfants parce que ces pauvres petits choux, faut pas les contrarier. Alors que l'éducation des enfants, faut qu'ils apprennent à obéir à leurs parents pour qu'un jour ils puissent obéir à Dieu qui ne voit pas. Mais ces pauvres petits choux, faut pas les contrarier. Et aujourd'hui, on a des enfants qui sont insupportables. Allez faire vos courses dans les supermarchés, vous verrez. Des fois, moi, je change de cours. Ah, pour pas intervenir, parce que ça me regarde pas, mais... Ma fille m'avait dit, papa, tu m'as éduqué sévère. Oui, j'ai éduqué ma fille sévèrement. Ouais, mais aujourd'hui, elle est dans les voies de Dieu. Elle n'a pas n'importe quelle éducation. C'est ce qui fait la différence. Alors, il y a cet épisode-là de Noé, où ça nous met en évidence que c'est quelque chose qui va venir d'une façon flagrante et brutale et qu'il n'y aura plus aucune solution pour tous ceux qui n'auront pas accepté d'être à part. Le deuxième épisode de l'histoire que le Seigneur relève, c'est l'histoire avec Lot. Vous savez, Lot, vous connaissez Lot, c'est le neveu d'Abraham. Hein, le neveu d'Abraham, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham commençaient à se disputer et ils étaient dans la vallée de Sodome et Gomorre et il y avait beaucoup d'herbes et tout ça. Et Lot, plutôt que de laisser le choix de l'endroit à Abraham, qui était son père adoptif, quoi, c'était son oncle, mais c'est comme en Afrique, hein, quand un oncle adopte le neveu, c'est le fils, quoi. Hein. Au lieu de laisser l'avantage à Abraham, il a pris tout pour lui en avantage personnel. Mais cet avantage n'a pas été un avantage pour lui. Parce que qu'est-ce qu'il a porté comme fruit, Lot? Les gens de Sodome et Gomorre, il n'y en a pas un qui s'est converti, qui s'est tourné vers Dieu. Où a été le fruit de Lot? Aucun fruit. Aucun. Mais Abraham qui a accepté l'humiliation, Il a accepté. Et je rappelle ce que ça veut dire, humiliation. L'humilité en grec, ça vient d'un mot qui veut dire tapéis, d'où on a tiré le tapis, au ras du sol. Un disciple, il va accepter parfois d'être tapéis. Quand il dit que Jésus s'est humilié, il s'est rendu humble, il s'est rendu au ras du sol. Et c'est comme ça, c'est à partir de là que le Père, il a pu l'élever. Et il est notre chemin pour notre salut, mais il est notre chemin pour notre marche. Jésus n'est pas que le chemin pour le salut. Il est notre chemin pour notre marche dans cette vie de disciple. On doit retrouver les traits caractéristiques de celui qui a accepté d'être au plus bas du plus bas et qui a été élevé au plus haut des plus hauts, parce qu'il a toute autorité dans le ciel et sur la terre aujourd'hui. Et cette autorité, il nous la donne en tant qu'Église. Alors ça, c'est important de bien comprendre ça. Et comment Lot a pu se tirer de ce mauvais choix, à deux doigts du jugement qui allait tomber, à travers Abraham, qui était lui, il a accepté d'être humilié par le mauvais choix de son neveu. Mais il était en communion avec Dieu. Il était un intercesseur. Un disciple, il sera toujours un intercesseur pour les autres. Et il a intercédé. Si Abraham n'avait pas intercédé en faveur de Lot, est-ce que Lot aurait été sauvé comme à travers le feu? Je ne sais pas. Ça ne nous est pas précisé dans la Bible. À mon avis, je donne mon avis, ça m'étonnerait. L'intercession d'Abraham a été une main tendue divinement pour sauver des gens qui font des mauvais choix. Voyez qu'il y a une différence entre ceux qui sont à part et ceux qui font comme selon leurs avantages, leurs intérêts. Et si vous relisez encore dans les Écritures, dans le livre de la Genèse, hein, l'histoire de Lot, après ce passage-là où il a dû fuir Sodome et Gomorre, eh bien, quelque part, on n'entend plus parler de Lot après. C'est terminé. Il est où? On n'en sait rien. On n'entend plus du tout parler de Lot. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent dans les églises, mais un jour, on n'entendra plus parler de vous. Et j'espère qu'on entendra quand même parler de vous quand même au ciel. Je le souhaite de tout mon cœur. Quand il y aura ce dernier instant qui va arriver, il restera combien de personnes vraiment debout? S'il fallait que les choses arrivent comme ça, brutalement, mais il restera combien de disciples qui, envers et contre tout, quelles que soient les conséquences, quelle que soit peut-être la souffrance, etc., etc., ils seront toujours debout parce qu'ils sont avec leur Seigneur et leur Maître. Dieu cherche et il veut absolument voir un peuple qui est vraiment à part. Quand Dieu dit « sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur », c'est pas un verset qui vous fait trembler, ça? C'est pas la parole de Dieu, ça? Mais c'est quoi, sans la sanctification? C'est essayer d'être plus saint tous les jours? Mais non, c'est un état d'esprit où je suis complètement à part avec lui. Quand je suis absolument à part, quand je fais ce qu'il me demande, comme Noé a fait ce que Dieu lui a demandé, et heureusement pour nous, parce qu'on serait pas là, cet homme qui était à part a été le moyen de salut pour toute l'humanité. Et encore aujourd'hui, on parle de Noé. On parle d'Abraham, Lot, chaque fois qu'on en parle, c'est oui l'image d'un chrétien charnel, qui ne porte pas forcément le fruit qu'il devrait porter. Alors, on va continuer dans cette pensée-là, parce que quand le Seigneur va revenir, et la parole de Dieu nous dit en un instant, on n'aura pas le temps de dire ouf. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis 2023, depuis l'année dernière, il y a eu une accélération de catastrophes. Il y a les guerres, les bruits de guerre, il y a des menaces même de Troisième Guerre mondiale. Il y a des catastrophes de partout, 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 à des grandes échelles. Des hectares et des hectares au Canada brûlés, en Grèce, partout. Hein, à Valence, il n'y a pas longtemps. Regardez tous ces gens, ces drames qui vivent là. Hein, et quand vous entendez parler, vous dites, oui, c'était toute notre vie. Et en un instant, oui, mais en un instant, c'était toute notre vie. Et après, il n'y a plus rien. Quoi. Ils mangeaient, ils se mariaient leurs enfants, vaquaient à leurs occupations, et Dieu là-dedans. Beaucoup, toute la société, elle est empreinte de personnes qui font que ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, il y a tout un souffle où on veut se divertir. Vous savez, peut-être vous ne savez pas, mais je vais vous le dire. Le divertissement, c'est quelque chose de très grave. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas, disent, ben, on peut se divertir. Bien sûr, on peut tout faire, hein, on peut pécher. Oula, on peut pécher, on peut tout faire. Hein. Oh. Je suis en train de faire des bêtises. D'accord. Ah, d'accord, c'est là. Le divertissement, on peut se divertir, d'accord. On ne trouve pas ça de mal. Sauf que si on reprend le mot divertir en hébreu, dans le livre de l'Exode, lorsqu'il y a eu l'histoire du veau d'or, vous vous souvenez de ça? Moïse est monté sur la montagne, et quand il est revenu, le peuple s'était vautré dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans tout ça, hein, et ils se divertirent. Le mot divertir en hébreu signifie trois choses. Trois choses. Et retenez bien ça. Première chose, la violence. Deuxième chose, la débauche. Troisième chose, l'idolâtrie. Dans le mot même, dans le mot, il y a ces trois choses. Et quand vous entendez les chrétiens dire « Oh, il n'y a pas de mal à se divertir », mais ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Dieu n'est pas contre de se détendre. Il n'est pas contre qu'on ait des moments de repos. Mais derrière le divertissement, il y a ces puissances qui agissent. Et aujourd'hui, le divertissement devient carrément un dieu, quoi. Et toute la vie des gens, hein, est en fonction du divertissement qui conduit, en fin de compte, toute la société à ne vivre que pour ça. Ils passent des vacances à une autre et ils cherchent le divertissement. Il faut des vacances programmées parce qu'ils sont même plus capables d'organiser leurs propres vacances. Non, mais on est dans une société qui va mal. On est vraiment dans une société qui va mal. Et un jour, il arrivera comme il est arrivé au temps de Noé, comme il est arrivé au temps de Sodome et Gomorre, en un instant, comme nous dit l'apôtre Paul, en un instant, en un clin d'œil. Et clin d'œil, c'est un temps qui n'est pas divisible. Alors, je ne sais pas comment on peut traduire ça, mais c'est un temps qui n'est pas divisible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, on ne peut pas avoir cette mentalité de dire « on verra ». Oh, on verra bien. De toute façon, je ne fais pas de mal. Mais est-ce que tu fais le bien en étant à part? Alors, tout ça pour vous préparer à bien comprendre que le Seigneur, il n'a pas besoin de croyants. Il a besoin de gens qui sont à part. Pourquoi nous, en tant que serviteurs de Dieu, on a nos vies qui sont à part? Pourquoi nous, on serait plus engagés que vous? Parce qu'on est pasteur. Moi, je le dis partout où je suis, je ne sers pas Dieu parce que je suis pasteur et apôtre. J'ai un ministère d'apôtre, j'ai un ministère pastoral, mais je ne sers pas Dieu à cause de ça. Eh bien, mais écoutez-moi, je sers Dieu parce que je suis un disciple de Jésus-Christ. Il faut peut-être leur dire, non? Je ne sers pas Dieu parce que je suis apôtre ou pasteur. Je sers Dieu parce que je suis d'abord un disciple de Jésus-Christ. Après, il m'a conduit comme il m'a conduit, mais c'est pas la motivation de la conduite, le titre ou le ministère. La vraie motivation, c'est que je suis tellement heureux d'être pardonné de mes péchés, quoi. Et il y a tellement de personnes qui seraient heureuses aussi de savoir qu'il y a une possibilité d'être pardonné, une possibilité de ne pas être devant une porte fermée au moment du jugement. Tellement de personnes qui sont autour de nous. Combien de fois Dieu m'a conduit vers des personnes qui étaient en train de préparer leur suicide, mes bien-aimés, qui sont aujourd'hui avec le Seigneur. Dieu nous conduit vers ces gens-là, et nous, on va continuer à se marier, marier leurs enfants, et vendre, faire bâtir et tout. Hein, même s'il n'y a rien de mal à ça, mais il faut que la priorité, c'est d'être dans la pensée de Dieu et d'avoir un état d'esprit de disciple-là. J'ai rien contre le bâtir, moi j'ai construit 3 maisons dans ma vie. 3 maisons plus un dispensaire au Sénégal. Donc je suis pas contre la construction, mais il faut que ça rentre dans le cadre de la pensée de Dieu, tout. Votre temps, votre argent. Parce que il est important, urgent qu'on se pose la question, est-ce que moi-même, ma vie est une vie de disciple? Je vais essayer de vous donner peut-être dans la réflexion des réponses qui peuvent vous aider. Alors moi, dans mon cœur, je vise personne, parce que même si je connais des têtes, mais je connais pas vos vies. Hein, personne n'est visé, mais il faut qu'on se pose des vraies questions pour avoir des vraies réponses. Déjà, un disciple ne peut pas être dans la passivité. Quand on est disciple de Christ, on peut pas être passif. Pourquoi on peut pas être passif? Passif au milieu d'une société qui se perd et qui connaît pas Jésus. Vous avez connu Jean-Hugues Jéquier, qui est venu prêcher là. Sa maman, elle a 102 ans. Hein, c'est une jeune centenaire. 102 ans. L'autre jour, elle était à l'hôpital pour un examen, enfin, général. Et au moment de partir à l'hôpital, vous savez ce qu'elle dit à Jean-Hugues? Jean-Hugues, tu n'as pas oublié de mettre les évangiles et les tracts dans ma valise? 102 ans, la mamie. Hein. Son souci, c'était même pas sa santé. Son souci, c'est surtout, je vais pouvoir parler de Jésus, je vais pouvoir annoncer l'évangile. 102 ans. J'ai connu une ancienne danseuse de French Cancan. Elle avait 84 ans, cette mamie, mais elle a tellement été bouleversée par la vie de Jésus, hein, jusqu'à sa mort, elle a témoigné partout, tout au long de sa vie. Hein, comme elle était âgée, elle pouvait pas faire grand-chose, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait un petit sac, elle remplissait des tracts, des évangiles, et elle allait s'asseoir sur un banc et demander au Seigneur de lui amener les personnes. Parler de la pluie du beau temps, petite mamie, hein. Et petit à petit, elle témoignait du Seigneur Jésus. Papa Jean-Peter Schmitt à Mulhouse, vous le connaissez? Quand un jeune venait lui demander, moi je veux servir Dieu. Tu veux servir Dieu? Tu vois, là-bas il y a des tracts au fond de l'église. Va chercher les âmes. Parce que c'est comme ça que Dieu va nous former, c'est sur le terrain. C'est pas assis dans une chaise, hein, dans les salles de réunion que Dieu nous forme. Quand tu commences à aller sur le terrain, tu vas être confronté à la réalité des choses. On va te rejeter, on va te moquer, on va te dire toutes sortes de choses devant toi. Et tu vas être confronté à ton manque de connaissance de la Bible. Du coup, ça va te pousser à étudier la Bible. Tu vas être confronté à... Il y a des cas difficiles. Du coup, tu vas développer ta vie de prière, etc., etc. Vous voyez, c'est sur le terrain que tu vas être obligé, hein, de, si tu veux vraiment continuer à être le témoin de Jésus, il va falloir que tu ailles vraiment au fond de la parole et que tu puisses être un homme de prière pour demander le secours de Dieu, etc., etc. Mais c'est jamais, hein, avec des chrétiens du dimanche matin qui nettoient bien les chaises une fois par semaine que le monde va pouvoir bouger, mes bien-aimés. C'est plus qu'urgent. Il y a tellement de misère autour de nous. Il y a tellement de drames, ils ne connaissent pas Jésus. Et c'est le drame, c'est pas le monde, hein, qui fait du n'importe quoi. Le drame, c'est de pas trouver des disciples dans l'église de Jésus-Christ. Comme ce djihadiste dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, pour moi, ça c'est dramatique. Ça, c'est dramatique. Et Jésus l'a dit sous une autre forme quand il dit, mais quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? C'est Jésus qui dit ça. Est-ce que je vais trouver la foi? C'est-à-dire, est-ce que je vais trouver des gens qui sont en harmonie avec ma parole, qui croient ma parole et qui vivent ma parole? C'est Jésus qui dit. Il faut absolument qu'on se pose sérieusement hein, cette question. Donc, vous comprenez, quand on est dans cette mission-là, hein, on a vraiment le regard sur les âmes perdues. Je peux pas être passif, c'est pas possible. Je serai actif d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre. Hein, moi, j'ai connu quelqu'un qui était handicapé, qui habitait dans une mansarde. Il écrivait des messages qu'il jetait par la fenêtre pour semer la parole en bas de son immeuble, pour que les gens puissent avoir la possibilité de... Vous voyez, quand il y a l'amour des âmes, quand il y a vraiment quelque chose de fort avec Jésus, on ne peut pas se taire. Il y a même une loi qui nous dit non à ce sens, sans personne en danger, mais les chrétiens seraient condamnés. La société, elle est en danger, mes bien-aimés. Il faut absolument que l'Église de Jésus-Christ, pas que nous les pasteurs, nous aussi on est responsables, mais il faut que l'Église, c'est un travail d'ensemble, c'est un travail d'équipe. On peut pas simplement avoir quelques responsables qui font tout. C'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Quand on est un disciple de Jésus-Christ, on ne peut plus vivre d'une façon égocentrique. Noé, il pouvait pas vivre d'une façon égocentrique. Peut-être que Noé, il avait des projets dans sa vie. Ça ne nous est pas précisé dans la Bible. Mais il avait peut-être des projets, il avait peut-être établi des trucs avec sa famille. Et le Seigneur est intervenu, « Non, tu vas me fabriquer une arche. » Et c'est hein, au moins 80 ans minimum de construction. Il a fallu qu'il mette tout de côté. Qu'est-ce que tu as mis de côté dans ta vie pour suivre Jésus? Quelles sont les choses que tu as mises de côté pour que la priorité soit sa volonté? Ou alors, faut pas dire au Seigneur que ta volonté soit faite si je passe mon temps qu'à défendre ma volonté. Nous avons besoin d'être intègres. Intègre, ça veut dire entier. Ça veut dire entier. Je sais qu'il y a un couple qui vient de se marier il n'y a pas longtemps. Florence, si ton mari t'avait dit le jour de mariage, moi je m'engage avec toi, mais à 75%, tu n'aurais pas accepté. Même à 90%, tu n'aurais pas accepté. Pourquoi une femme ne se marierait pas avec un homme à 70%, 90%? Parce que c'est une alliance. Et nous, on se permet ça avec Jésus. On se permet ça avec Jésus. Dire, Seigneur, moi, je veux bien te suivre, mais bon, ça m'appartient, ça m'appartient. Et ce qui reste, bon, ce sera pour toi. Mais aucune femme se marierait. Et aucun homme, moi je ne me serais pas marié avec ma femme. C'est de temps en temps avec toi. Mais non. C'est, vous voyez, c'est impensable. Dans un mariage, c'est impensable. Et pourtant, on pense comme ça avec Jésus. Oh, c'est pas grave. On verra. Ben, j'ai des choses tellement plus importantes à faire. Ce que moi, j'ai décidé de faire, c'est tellement plus important que ce que lui me demande. Et comment Dieu, il nous prépare à ce disciple-là? C'est justement l'Église, le fonctionnement d'une Église. C'est un terrain d'apprentissage pour apprendre à être un disciple. On apprend à être un disciple, d'être ensemble. La Bible nous dit que le fer aiguise le fer. Mais l'homme aiguise l'homme. Quand il nous demande de nous assembler ensemble et de faire des choses ensemble, ben oui, c'est normal que des fois, ça, comme dans un couple, hein, même quand on s'aime, des fois, ça aiguise. Mais c'est ça qui va nous rapprocher, c'est ça qui va... Si les choses sont réglées avec la parole, la pensée de Dieu, tout ça, à bout d'un moment, il va y avoir des racines. Il va y avoir du solide. Et au niveau de l'Église, quels que soient les problèmes, on ne s'en va pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a un problème, on s'en va. Non, on va réfléchir. Et si on n'a pas la victoire tout de suite, mais en tous les cas, je ne baisserai pas les bras. Je vais aller jusqu'au bout. Et c'est la montagne qui doit s'aplanir. C'est pas moi qui dois fuir. La montagne doit s'aplanir. Et je dois aller jusqu'au bout pour trouver la solution avec Christ. Un vrai disciple, c'est un conquérant, c'est un battant. C'est quelqu'un qui a la vision de l'Église. C'est quelqu'un qui a le cœur de Christ qui sait pleurer devant les âmes, avec une compassion de souffrir avec. On peut pas simplement avoir une vie égoïste chrétienne. On va chanter des beaux cantiques, on va louer le Seigneur. Et tout le reste de la semaine, ben, je suis mon propre Dieu, quoi. Parce que je fais ce que je veux. Et s'il me reste un petit peu de temps, ben, on verra bien. C'est un challenge. C'est le challenge, ça va simplement se résumer en quelques mots, mais est-ce que je suis prêt à mourir? Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer a écrit quelque chose d'important. Si tu veux suivre Jésus, apprends à mourir pour bien vivre. Allô? Apprends à mourir pour bien vivre. Nous sommes tous issus du péché. Nous sommes tous issus de quelque chose qui nous tire vers le bas, de quelque chose qui nous pousse à raisonner en fonction de la terre. Mais si je suis en Christ, Dieu, il veut m'attirer vers le haut, par Christ, en Christ, avec Christ. Il veut m'attirer dans des raisonnements différents, dans des voies différentes. Ésaïe chapitre 55. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Donc il faut bien qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un des deux qui lâche. Et ce n'est certainement pas à Dieu de lâcher. Parce qu'il est la vérité. C'est lui qui sait, c'est lui qui sait, qui peut, c'est lui qui connaît. Moi je ne sais pas, je ne peux pas, je ne sais pas. Il faut que j'accepte. Que ça, c'est le verdict de notre chair. Et c'est pour ça que tous les apôtres, ils ont tous été mis en échec avant de commencer l'œuvre de Dieu au niveau de l'Église. Pas un a été dans la victoire, pas un. Leur échec a été leur gloire. Leur échec a été la grande victoire de Christ. Pourquoi ? Parce que tout reposait ensuite sur la grâce. Tout a reposé sur le sang de Jésus. Tout a reposé sur la puissance de la croix. Ils ont accepté d'être en échec. Mais nous, on est tout le temps en train de défendre des choses qui ne sont pas défendables. Seuls ceux qui sont à part font la différence. Ton côté à part se manifeste comment au sein de ton couple? Parce que quand tu as ton mari devant toi ou ta femme devant toi, est-ce que tu réalises que tu as Christ devant toi? Si nous mettions Jésus entre ma femme ou mon mari, croyez-moi, on serait beaucoup plus modérés dans certaines situations. Mais pensez à ça, parce que tout ce que nous faisons, disons à l'un de ses plus petits, c'est à Jésus lui-même, d'autant plus dans le couple. Si déjà la vie de disciple commençait là, où ma vie, elle est au service de Christ, mais au service de Christ, c'est au service de l'autre. Et l'autre, c'est qui ? Dans un couple, c'est mon premier prochain, c'est mon épouse, ou alors c'est mon mari. C'est mon premier prochain. Faut pas que je sois simplement dans l'église comme ça, et dire oui, je suis chrétien, je chante des beaux cantiques. Non, ça se construit déjà comme ça. Et c'est pour ça que quand on commence à construire après comme ça, on peut ensuite développer autour de nous. Au sein de l'Église, on a du poids. Et entre frères et sœurs, on est différents. On a des histoires différentes, on a des cultures différentes. Mais tous ensemble, on doit apprendre la culture du royaume. Parce que nous sommes des fils et filles du royaume. et nous avons besoin de le recevoir par révélation que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des fils et filles du royaume de Dieu, appelés à penser en fonction du royaume, à faire des choix en fonction du royaume, pour pouvoir accomplir ce que le royaume veut que j'accomplisse ici-bas sur la terre. Et Dieu, il a choisi l'Église. Est-ce que vous avez déjà pensé pourquoi Dieu veut des disciples? Est-ce que Dieu a des besoins? Dieu n'a pas de besoin. Il n'a pas de besoin, Dieu, il est Dieu. Et pour accomplir son œuvre sur la terre, quand on voit les myriades et les myriades d'anges, il n'avait qu'à se servir au milieu des anges. Mais Dieu n'a pas choisi comme ça. Pourquoi Jésus veut des disciples? Pourquoi c'est quelque chose qui est ancré dans le cœur de Dieu? Vous avez déjà réfléchi à ça? Alors que Dieu, il aime tellement plus que son Église qui est affaiblie, qui est tellement imparfaite et qui a du mal tout au long des années à accomplir la volonté de Dieu. Je dis, mais Seigneur, t'as dû te tromper, non? Tes anges auraient tellement fait plus vite et mieux que nous. Vous savez, dans le discipulat, une chose qui est importante à comprendre, c'est que Dieu nous demande d'être des disciples pour que nous puissions marcher à sa suite. Marcher à sa suite, ça veut dire obéir à sa parole. Mais quand je suis confronté à sa parole, je suis confronté à quoi? Je suis confronté à mission impossible. Je suis confronté à mission impossible. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc., etc. Et Jésus dit, vous avez entendu dire que ça, et moi je vous dis, il met encore la barre plus haute. Est-ce que Dieu nous tend des pièges? Non. Mais si je veux vraiment suivre Jésus, je vais réaliser mon incapacité à le suivre. Mais comme je veux le suivre, je vais aller le rechercher dans l'intimité. C'est ça que Dieu cherche dans le discipulat. C'est le cœur à cœur avec lui. Même Jésus lui-même, qui est notre chemin, pas que pour le salut, mais aussi pour la marche, je précise les deux. Pas que pour le salut, mais aussi pour la marche. Même Jésus nous a fait voir qu'il ne faisait rien sans qu'il ait vu faire auprès de son Père. Même Jésus, quel que soit son planning journalier, il devait être lourd, parce que on a dans les évangiles qu'une petite partie de ce qu'il nous a rapporté. Hein, je crois que c'est multiplié par X de tout ce qu'il a vécu. Mais même Jésus, dans son planning fort, il passait son temps avec son Père dans l'intimité. Le matin de bonne heure et le soir tard. Il est notre chemin. En fin de compte, le Seigneur, il est en train de, il est le fer de lance pour nous dire, mais j'ai tellement besoin de ton cœur. C'est toi que j'ai besoin. J'ai pas besoin que simplement que tu fasses ces choses. Bien sûr que c'est important de les faire. Mais je veux ton cœur. Et vous savez, quand on se sent complètement, impuissant pour faire quelque chose, tellement dépassé, ben, c'est comme un enfant qui est dépassé, il va voir vite les parents. Papa, maman, a besoin d'aide de son père et de sa mère. C'est ça que Dieu recherche. C'est pour ça qu'on est dans une volonté qui est mission impossible, rendue possible à tous ceux qui croient. Par le Dieu de l'impossible. Mais c'est à tous ceux qui adhèrent, qui reçoivent, en fin de compte, qui reçoivent Christ comme leur force, leur capacité. Des gens qui vont marcher dans la foi, pas dans une croyance, mais qui vont marcher avec une assurance claire, nette et précise. Mais si on ne marche pas de cette manière-là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on marche par la chair. On va devenir des chrétiens qu'on appelle Lot. Et marcher dans la chair, dans Galates 5, 19, ben, les œuvres de la chair, elles sont flagrantes. Je vais vous les lire, hein, vous les connaissez, elles sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie et toutes choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous voyez que la religiosité n'a pas sa place là. Et une simple croyance n'a pas sa place. Si je ne vis pas dans le principe de choses de l'esprit, c'est obligatoire, je vis dans le principe de la chair. C'est l'un ou l'autre. Moi, je ne vois pas dans la Bible un autre chemin. C'est l'un ou l'autre. Je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis le chemin de la vie afin que tu vives. C'est clair. Mais aujourd'hui, on dit oui. Oui, dans le mais, tu es en train de justifier ta chair. Et il ne faut pas être étonné que tu retrouves les fruits de la chair. Et après, tu vas voir le pasteur. Tu peux prier pour moi, ça va pas. Ben oui, ça va pas. C'est normal. Au bout d'un moment, c'est à toi de faire des choix. Nous, on n'est pas obligé de subir les mauvais choix des chrétiens. On n'est pas obligé de passer éternellement toute notre vie à prier pour les mêmes personnes, pour les mêmes problèmes. En général, ces personnes-là, ils sont assis sur un manège, comme les enfants, ils tournent en rond. Au bout de 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous les retrouvez. Bonjour, au revoir, bonjour, au revoir. Et le paysage est monotone. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de chemin. Ça, c'est dramatique, mes bien-aimés. Ça va? Vous êtes encore avec moi? C'est bon? Ben, je sais pas, il n'y a pas de pierre là pour me lapider après, non, c'est bon. Et ça, ce sont des réflexions que nous devons relever devant Dieu parce que, je veux dire, Seigneur, mais qui est vraiment disciple là? Alors, ceux qui sont vraiment des disciples avec Jésus-Christ, c'est ceux qui ont compris ce qu'est une alliance. Hein, quand on se marie, à un moment donné, on fait un échange de vie. On promet, on donne notre vie à notre mari ou à notre épouse, et à partir de là, il y a une coupure qui se fait. Je ne suis plus célibataire. Ma vie, elle est en fonction de l'alliance que j'ai faite avec la tierce personne avec qui je me suis marié. Et quand j'ai compris avec Christ, je n'adhère pas à un mouvement religieux, même dit chrétien évangélique. Je fais une alliance. C'est comme un mariage avec Christ. C'est vraiment comme un mariage. Lui, il m'a déjà donné sa vie sur la croix, hein, et par la résurrection, et sa vie, elle a été pleinement donnée pour moi. Il attend simplement mon accord pour que je le reçoive. Il attend mon accord. Mais quand je dis « Oui, Seigneur, je te reçois », il faut que je sois conséquent de la façon dont je le reçois. Et je vous renvoie dans Acte 2, à un moment de la Pentecôte, quand Pierre a commencé à parler, tout simplement, quand ils ont eu l'effusion du Saint-Esprit, il a parlé que Jésus a été crucifié, ils sont témoins de ce qu'il est ressuscité, etc. Et les gens ont été touchés par ce message, ils disaient « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et Pierre, il a été radical, parce que là, il avait affaire à des non-croyants. Il a dit, repentez-vous. Aujourd'hui, on veut plus entendre parler de repentance. Parce que les petits choux, on va les vexer. Et la repentance touche mon système de pensée. La repentance, elle touche ma vision. Elle touche mes valeurs. Elle touche ma logique. Elle touche ma sagesse. Dans la repentance, il y a tout ça. Repentez-vous. Et il dit, et là aussi, il a été très radical, et il a affaire qu'à des nouveaux, là. Séparez-vous, c'est-à-dire une coupure. Dieu demande une coupure. Et dans beaucoup d'églises, les gens, ils adhèrent, mais il n'y a pas de coupure dans le cœur. Regardez l'apôtre Paul, Saul de Tarse, quand il a eu la révélation de Christ, dans Acte 9, hein, dit... Que veux-tu que je fasse? Alors que Paul, il avait des bagages, il avait une profession, il avait des occupations, il avait tout. Il reçoit la révélation de Christ, et le jour même de sa conversion, il démontre cette coupure. Dire, c'est plus qu'est-ce que moi je dois faire hein, avec mes projets à moi, c'est maintenant que veux-tu que toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse toi? Qu'est-ce que tu as décidé maintenant pour ma vie? Combien de chrétiens hein, relèvent cette question, dire Seigneur, mais comment tu veux utiliser ma vie? Comment je peux être un semeur de vie autour de moi? Un coup de fil de parfois, un courrier, hein, un temps de prière avec d'autres frères et sœurs pour porter. L'œuvre est tellement immense autour de nous. Et croyez-moi, on n'est pas tant que ça. Hein. Mais si déjà le nombre de chrétiens hein, ne sont pas des disciples, ben oui, on va être dans la passivité, on va être dans une vie égocentrique, on va se marier nos enfants, on bâtit, on fait ceci, on fait cela. On fait pas de mal, ok. Mais est-ce que tu fais le bien qui vient d'en haut? Ça, c'est la part du vrai disciple. Donc, il faut comprendre le principe même de l'alliance. Et s'il n'y a pas de coupure à partir du moment où tu as eu la révélation de Jésus, il faut que tu reviennes à ce moment-là. Est-ce que ma vie était mise sur l'autel? Et Paul le dira dans Romains 12, « Mettez votre vie en sacrifice ». Donner votre corps en sacrifice. Dire, on ne s'appartient plus. Un vrai disciple, et c'est Jésus qui le dit dans Luc, c'est dans Matthieu 16, 24. Un vrai disciple, il va accepter à renoncer. Il renonce à sa vie. Et est-ce qu'on a renoncé à notre vie? Et c'est Jésus qui dit, si tu ne renonces pas, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Un vrai disciple, il va aussi ne plus regarder en arrière. Constamment, nous, on est en train de regarder dans le rétroviseur. Un vrai disciple, et ça c'est Jésus qui le dit dans Luc 9, il va vraiment avoir une vie qui est soumise à Christ et à sa parole. Un vrai disciple, il va mettre Jésus à la première place. Un vrai disciple, il va décider de porter sa croix, quelles que soient les agressions et le poids de souffrance que tu as apporté parce que tu annonces Christ, comme ces chrétiens d'Algérie que j'ai parlé, ils continuent à annoncer Christ. Pourtant, ils ont été battus et des fois, ils ont été rejetés de leur famille. Certains même ont été égorgés. Mais ils continuent à annoncer Christ. Et nous, pour le moins de petits bobos, on va pleurer et dire « Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'aimes plus, de ceci. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un vrai disciple, il va accepter de renoncer à tout ce qu'il possède. C'est pas moi qui le dis, hein, Luc 14, 27. Et c'est très important, parce que nous avons l'illusion de posséder quelque chose. On pense qu'on possède notre vie. On possède tout, on pense ça, mais c'est faux. Même ta respiration, tu n'en es pas maître. À tout moment, il peut couper ta respiration, c'est terminé. Et toi, tu penses que tu es propriétaire de ta vie? Mais quelle illusion! Et vous savez, quand Dieu veut couper cette mentalité d'être propriétaire de soi, c'est très important, parce qu'un propriétaire, il a des comptes à rendre à personne. Quand tu es propriétaire, tu rends des comptes à personne. Mais quand tu es gérant, quand tu es locataire, tu as des comptes à rendre au propriétaire. Et Dieu, quand il demande de renoncer à tout, il dit, ben, non, vous n'êtes pas propriétaire de votre vie, c'est moi qui vous ai donné la vie. Et je vous les ai donnés pour une destinée qui est bénie. Et au lieu d'entrer dans votre destinée bénie, eh bien, vous faites du n'importe quoi. Et vous pensez que on va pas avoir de compte à rendre aux propriétaires. Les gens du temps de Noé ont des comptes à rendre. Les gens de Sodome et Gomorre ont des comptes à rendre. Mais les gens aussi de notre génération, au moment du retour du Seigneur, rendent des comptes à rendre. Mais si je suis Jésus-Christ, ben, en fin de compte, comme je lui ai donné ma vie, il a tout. Il connaît tout et je sais que je suis dépendant de lui. Et je sais que c'est lui qui est le propriétaire de ma vie, il est propriétaire de mon corps, il est propriétaire de ma santé, il est propriétaire de tout. Et le fait de ne pas fonctionner en tant que propriétaire, je sais que j'ai toujours des comptes à lui rendre. Du temps, comment j'utilise mon temps, etc. Vous savez, c'est une notion très importante. Un vrai disciple, il va vivre dans la joie de son maître. Et la joie du Seigneur n'est pas dépendante des temps et des circonstances. Quand on découvre ça, mais quelle liberté que ma joie soit pas dépendante des temps, des circonstances. Hein, je vous renvoie à l'apôtre Paul avec Silas qui était en prison. Ils étaient roués de coups, ils avaient des blessures, ils avaient des chaînes aux mains, aux pieds. Et ils étaient en train de manifester, en fin de compte, la joie du Seigneur. Et Dieu a envoyé des anges pour ébranler tout ça. Hein, la prison s'est ouverte et tout. Et toute une famille, la famille du geôlier, s'est convertie. Quelle puissance quand il y a de la joie qui dépasse les temps et les circonstances. C'est la joie du Seigneur. Un disciple, il doit fonctionner dans cette joie d'en haut. Pourquoi ? Parce qu'il sait que sa vie, elle est dans la main du maître. Moi, j'ai vécu au Sénégal dans les périodes de guerre en Casamance, où il y avait la guerre avec la Guinée-Bissau. Je peux vous dire des moments dangereux, mais quand j'ai réalisé que ma vie, elle n'était pas dans ces circonstances-là, mais elle était dans la main de mon Dieu, j'étais envahi de paix. Quelle force ! Tellement de personnes sont tracassées pour un petit tas de poussière, c'est le monde qui ne tourne plus. Alors, j'exagère en disant ça. Vous savez, un vrai disciple, il va forcément porter du fruit. Pourquoi il va porter du fruit ? Parce qu'un vrai disciple, c'est un semeur. C'est un semeur. Si tu sèmes l'amour, cette semence d'amour, ça va produire du fruit dans le cœur des uns des autres. La paix, la joie, la bonté de Dieu, la patience, le cœur de Dieu. Moi, combien de fois j'ai entendu des personnes dire, mais, j'ai été transformé par le témoignage d'un tel et un tel, simplement en le voyant vivre. Même pas en l'entendant parler, en le voyant vivre. Ça, c'est magnifique. Vous savez, pendant 3 siècles, il y a eu des vrais disciples au départ. Jusqu'à l'empereur Constantin, hein, les 3 premiers siècles, il y avait vraiment des disciples qui suivaient Jésus-Christ. Et c'est grâce à eux qu'on a l'évangile aujourd'hui. Et à partir du 3e siècle, quand Constantin a voulu que la population, ça prenait tellement, le christianisme prenait tellement d'ampleur, c'était mieux de l'avoir de son côté, faire rentrer ça dans l'Empire romain, mais c'est là qu'on a fait rentrer le paganisme dans le christianisme. Et ça, c'est l'héritage des 2000 ans de christianisme faussé. Et nous devons revenir à la parole de Dieu. Nous ne devons pas simplement nous contenter, je fais partie de telle église ou telle église, non. Est-ce que je suis vraiment un disciple ? Est-ce que ma vie, elle est centrée sur la personne de Jésus-Christ ? Dans mes choix, dans mes décisions, dans mes achats, dans mes temps libres. C'est souvent d'ailleurs dans les temps libres qu'on voit où on en est. Dans les temps libres, comment tu gères ton temps libre ? Est-ce que tu es un disciple de Jésus-Christ ? Je ne vais pas vous assommer plus que ça, mais j'aimerais bien simplement vous interpeller par cette question-là. Y a-t-il vraiment des disciples à Aubergenville ? Et est-ce que vous faites partie de ces disciples ? Je le souhaite tellement de tout mon cœur. Quels sont les fruits que tu portes ? Quelle est la joie que tu transportes ? Comment tu gères les difficultés, les conflits ? Comment tu es avec le souci de porter l'ensemble de l'Église avec les responsables ? Parce que nous sommes un corps en fonction, en mouvement. Hein, même s'il y a des membres qui sont plus visibles que d'autres, mais heureusement qu'il y a tout hein, dans mon corps. Je suis content d'avoir une main au bout de mon bras. Hein. Vous imaginez si la main, elle n'est pas là ? Le bras, il veut fonctionner, mais il n'y a plus de main. Ah ben non, elle est partie fêter un anniversaire. Je suis un peu ironique en disant ça. Aujourd'hui, on fait... Les anniversaires ont plus de valeur que les rencontres avec Dieu, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas décaler un anniversaire pour vivre quelque chose que Dieu nous demande de vivre ? Ça a pris une telle ampleur. C'est tellement ancré dans la société aujourd'hui, maintenant. le diable multiplie les fêtes. Les fêtes des pères, les fêtes des mères. Après, on a rajouté les fêtes des grands-mères, les fêtes des grands-pères, les fêtes des grands-sœurs, des machins. Enfin, et il y a tellement de fêtes. Ben, si avec toutes vos relations, ben, vous passez votre vie à fêter les fêtes. Il faut quand même comprendre que le diable est un voleur. Et s'il vous le vole votre temps, il vous vole votre vie. Le temps fait partie de ma vie. Le temps que je vous donne là ce matin, ça fait partie de ma vie. Mais si le diable arrive à vous voler, alors il y aura toujours mille et une bonnes raisons. Oui, mais je suis un témoin là, hein, parce que je suis anniversaire, un témoin. Mais vous pouvez pas mettre des cadres. Si vous voulez vraiment que je vienne, ouais, moi, il y a des périodes, je ne peux pas. Hein, mais des périodes, je peux. Mais moi, je ne touche pas à tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Et quand j'y vais, eh ben, je suis un témoin de l'Évangile et je suis d'autant plus respecté quand j'ai mis les cadres, parce que sinon, quand vous donnez la main, les gens ils prennent le bras. Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Faites attention, il y a un système de société qui est en train de voler, hein, avec des bonnes raisons. Voler le temps des chrétiens, nous devons nous retrouver ensemble, avoir des projets ensemble, agir ensemble, pour être efficaces ensemble et toucher notre société ensemble, que la société a le droit de voir des disciples de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te remercie d'avoir partagé tout simplement ce message que j'ai tellement sur mon cœur, notre Père. Nous avons tous besoin, Seigneur, de ta grâce. Te demandons vraiment profondément pardon d'être comme ces gens du temps de Noé qui faisaient tout en fonction de leur propre vie, sans se soucier de toi. Seigneur, nous te demandons toute ta grâce, qu'il y ait des réformes, qu'il y ait des repentances profondes, que ton Église vive avec la mentalité de l'alliance. Aucune femme n'épouserait quelqu'un qui ne s'engagerait pas pleinement. Pardonne-nous d'avoir toléré, accepté avec toi des engagements qui ne soient pas à 100% avec toi. Nous voulons nous humilier, Père, devant ta face. Et je te demande vraiment, Seigneur, un travail dans les consciences, dans les cœurs. Tu n'es pas là pour accuser, Seigneur, culpabiliser. Mais tu es là pour appuyer sur des abcès qui ont besoin d'être guéris. Étends ta main, Seigneur, ce matin sur ton peuple. Dans le cœur de tes bien-aimés, je proclame ta bénédiction. Seigneur, sur chacun, chacune qui sont ici présents dans ce lieu ou ceux qui sont derrière les écrans. Que vraiment la lumière de ta parole puisse poindre, Seigneur, dans les cœurs. Étends ta main, qu'il se lève un peuple vivant. Vivant par ton esprit, vivant, Seigneur, par cette vie qui vient d'en haut, qu'il y ait vraiment un peuple à part, véritablement à part, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.